France Musique.
Le journal Olivier Doré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Bien conscient qu'une importante minorité de la population refuse de se faire vacciner contre le Covid-19, le chef du gouvernement joue depuis hier la corde sensible et parle même d'un acte altruiste pour convaincre les Français d'être le plus nombreux possible à accepter de recevoir les deux doses nécessaires pour se protéger du virus. Entouré de plusieurs ministres, Jean Castex a donc hier soir exposé la stratégie vaccinale retenue par l'exécutif. Les opérations débuteront début janvier, Véronique Julia, et les vaccins seront gratuits.
Pédagogie et transparence, le gouvernement s'appuie là-dessus pour générer la confiance et pour déterminer les différentes étapes de la campagne. Il s'en remet aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Première étape, les EHPAD et les personnels à risque qui y travaillent. Pour eux, la vaccination se fera au mois de janvier, ça concernera 1 million de personnes. En février-mars, d'autres vaccins devraient arriver sur le marché. On élargira alors à 14 millions de personnes à risque, notamment les plus de 65 ans qui ne vivent pas en collectivité. La vaccination du grand public viendra ensuite à partir du printemps. Le respect de ces dates dépendra évidemment des approvisionnements. 1,5 milliard d'euros ont été budgétés pour acquérir 200 millions de doses, de quoi vacciner 100 millions de personnes, puisqu'il faut a priori 2 doses de vaccin. Les médecins généralistes seront au cœur du dispositif, mais pour la première étape, celle des EHPAD, l'organisation sera un peu spécifique et la logistique compliquée, car elle se fera en établissement, en devant respecter des contraintes de conservation de vaccins à très basse température. Il faudra livrer en janvier quelques 10 000 établissements. Des tests à blanc seront faits mi-décembre pour éprouver le dispositif. Enfin, deux principes, le vaccin sera gratuit et non obligatoire.
Spécialiste de l'immunité, le docteur Alain Fischer a par ailleurs été nommé président d'une nouvelle instance chargée de conseiller le gouvernement sur la stratégie vaccinale. Justement, ce pédiatre de formation tentera d'établir un rapport de confiance avec la population. Une confiance qui ne peut pas être, dit-il, une injonction verticale émanant des autorités de l'État. Deux syndicats claquent la porte du Grenelle de l'éducation lancé fin octobre par Jean-Michel Blanquer. La CGT et la FSU, la première fédération chez les enseignants, dénoncent une vaste opération de communication. Ces deux organisations considèrent que la parole des professionnels est tout simplement submergée par celle des experts soigneusement choisis par le ministère. Écoutez sur ce point les précisions de Benoît Test, le numéro 1 de la FSU. Il répond à Hakim Kasmi.
Ce Grenelle, dans sa partie expertise sur les métiers de l'éducation, non seulement on considère qu'il est en surplomb et qu'il ne débat pas des véritables besoins de l'éducation, mais en plus on considère qu'il peut être très dangereux. Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à changer, mais certainement pas en mettant sur le devant de la scène les dernières modes managériales ou les dernières idées reçues sur la manière dont on doit enseigner. Mais les ateliers qui se sont déroulés sur cette thématique, ils rentrent uniquement par la question comment, en gros, créer des hiérarchies intermédiaires, comment contrôler mieux le travail des enseignants. Et donc, les biais sont beaucoup trop forts dans le Grenelle pour qu'on puisse continuer à y parler sereinement et à y discuter sereinement de ce qui serait nécessaire pour l'éducation.
Et avec d'autres syndicats, la FSU appelle à une journée de grève dans l'éducation le 26 janvier prochain pour exiger des créations de postes ainsi qu'une autre politique éducative. C'est une guerre d'usure et d'influence qui se joue en ce moment au Venezuela et dont on connaît a priori le vainqueur. Le président Nicolas Maduro espère en effet reprendre dès dimanche le contrôle du Parlement via des législatives qualifiées de fraude par l'opposition qui appelle au boycott. La campagne électorale qui s'est terminée hier a été marquée par les derniers meetings du parti au pouvoir qui compte bien rafler la mise dans 2 jours. À Caracas, c'est un reportage de Benjamin Delisle.
L'ambiance est survoltée dans le gymnase Papa Carillo dans l'est de Caracas. Les gradins sont recouverts de casquettes rouges, tous tablent sur une large victoire du PSUV. Pour Cipriano, un militant retraité, l'opposition a détruit le pays en 5 années à l'Assemblée.
Ils nous ont menti en nous disant qu'on ne ferait plus la queue, qu'on n'aurait plus faim. Ils ont pris l'Assemblée et aujourd'hui tout s'est empiré. On ne peut plus acheter de nourriture, de médicaments. Ils nous ont traînés vers le chaos.
Il oublie de préciser que les députés n'ont jamais pu voter aucune loi bloquée par le tribunal suprême de justice réputé proche du président Nicolas Maduro. C'est aussi ce tribunal qui a poussé l'opposition au boycott en nommant cette année un nouveau Conseil national électoral. Juan Guaido dénonce d'ailleurs une farce. Sur scène, le gouverneur de l'État de Miranda, Hector Rodriguez, a tenu à lui répondre.
La farce, c'est de se planter
sur une place et de se proclamer président. La seule farce qu'il y a au Venezuela s'appelle Juan Guaido. Et il va quitter l'Assemblée nationale ce 6 décembre.
Quoi qu'il en dise, même en cas de forte abstention, ce scrutin va encore affaiblir l'opposant qui se retrouve désormais bien démuni pour honorer sa promesse de renverser Nicolas Maduro.
Des élections également à haut risque ce week-end au Cameroun. C'est un scrutin régional qui sera sans doute marqué par l'abstention mais aussi par de possibles violences dans les provinces anglophones où la guérilla mine le quotidien de la population. Pas mal de pluie aujourd'hui et de la neige en montagne à partir de 600 mètres d'altitude. Entre deux averses, il y aura quelques éclaircies, notamment sur le nord et sur l'ouest. Les températures iront cet après-midi de 6 à 13 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
C'était le journal d'Olivier Denré. Bon week-end, Olivier. À lundi 7h.
À lundi.
À réécouter sur francemusique.fr.